Dr. John Oswald, Isaïe, session 19, Isa. 38 à 39. Copyright 2024 John Oswald et Ted Hildebrand. C'est le Dr. John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. Il s'agit de la session numéro 19, Isaïe, chapitres 38 et 39. Eh bien, c'est lundi et il a plu, mais Dieu merci, il s'est arrêté ce soir, alors nous en sommes reconnaissants. Commençons par la prière. Père, nous te remercions pour le soin que tu prends à l'égard de ta création. Nous vous remercions pour la merveille de l'ordre de l'univers. Nous vous remercions pour la pluie. Nous vous remercions pour la chlorophylle. Nous vous remercions pour toutes les structures étonnantes que vous avez construites dans la création pour le maintien de la vie. Merci. Merci. Merci de nous avoir donné votre parole pour le maintien de nos vies spirituelles. Et nous te remercions, Saint-Esprit, d'être ici ce soir pour nous interpréter ta parole. Nous prions, ô Seigneur, que tu nous aides. Aide-nous chacun à entendre ce que tu nous dirais de ces deux chapitres de ta parole. Nous savons que ce sera différent pour chaque personne. Un mot est pourtant une application différente que vous portez à notre cœur. Nous vous en remercions et vous faisons confiance pour le faire à votre manière. Merci. En ton nom, nous prions. Amen. Très bien, nous examinons les chapitres 38 et 39, qui sont la fin des sections 36 à 39. Nous avons dit que 36 à 39 est l'image miroir de quelle section précédente du livre ? De 7h à 12h. C'est vrai. Dans les chapitres 7 à 12, le roi fut mis au défi de faire confiance à Dieu et il refusa. Et dans les chapitres suivants sont ensuite développées les implications de ce refus qui mène jusqu'au royaume messianique. Ensuite, nous avons eu les leçons de confiance de 13 à 35. Et maintenant, nous avons refait l'examen. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, Isaïe a réussi avec brio en choisissant de faire ce que son père ne voulait pas faire. Et c'est faire confiance à Dieu dans une heure de crise bien plus grande que celle à laquelle son père était confronté. Et en conséquence, il fut délivré des Assyriens. Maintenant, nous arrivons aux chapitres 38 et 39. Et au lieu de la note ascendante que nous avions dans ces chapitres, 38 et 39 sont quelque peu déprimants. Maintenant, comme je l'ai dit en arrière-plan, il y a une certaine question sur la date de ces deux chapitres. Le Babylonien mentionné en 39.1, Merodach-Baladan, était un rebelle babylonien qui a mené plusieurs rébellions au fil des ans. Mais il semble qu'il n'était pas vivant en 701, date à laquelle eut lieu la délivrance de Sennachérib. Et cela pose un problème si 38 et 39 sont après 701. La date la plus probable pour ce genre d'événement, étant donné la carrière fluctuante de Merodach-Baladan, est en fait vers 710. Cela signifierait que les chapitres 38 et 39 se sont réellement produits 10 ans ou 9 ans. En avant les événements de 36 et 37. La séquence correcte serait donc la suivante. Si nous avons ici une séquence chronologique. En fait, le dernier événement dont nous parlons ici est la délivrance de Sennachérib. La question est donc la suivante, si cela est exact, et que tout le monde n'est pas d'accord sur ce point, l'un des problèmes épineux est que la Bible nous donne des dates contradictoires pour la durée de vie d'Ézéchia. Avec pratiquement tous les autres rois, nous pouvons comprendre ce qui se passe. Mais avec Ézéchia, nous ne le pouvons pas. Vous avez une date qui dit qu'il a commencé son règne en 726 avant la chute de Samarie. Et a donc terminé son règne vers 696. Mais nous avons une autre suggestion, il a commencé son règne vers 716 et l'a terminé vers 686. Si cet ensemble de dates est correct, alors cela indiquerait que les 15 années supplémentaires qui lui ont été accordées en 701. Donc, que d'autres preuves le confirment ou non, cela dirait que oui, Merodach-Baladan était vivant en 701 et qu'il était étant donné les 15 années supplémentaires là-bas. Si, effectivement, ces événements se sont produits en 710, alors les 15 ans seront donnés en 710 et sa mort en 696. Il n'y a donc tout simplement aucun moyen de concilier ces dates. Un ensemble est correct, l'autre est faux, et nous ne savons pas lequel est lequel. Habituellement, dans des cas comme celui-ci, on peut dire, eh bien, il a commencé à régner en tant que co-régent avec son père, puis a pris la relève à la mort de son père. Mais le texte ne le soutient pas. C'est le cas avec d'autres rois, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, vous devez simplement payer votre argent et faire un choix quant à ce qui se passe ici. Si effectivement ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, alors Isaïe a fait cela exprès, et il a une raison pour le faire, et nous parlerons de ce que je pense être la raison. Et je pense que ces dates sont les dates correctes et qu'en effet ces événements se sont produits avant la délivrance de Sennachérib. Je me suis trompé au moins une fois auparavant, alors ne mettez pas votre vie en jeu là-dessus. D'accord, nous en parlerons un peu plus dans quelques minutes. Chapitre 38, verset 1. Quelle nuance y a-t-il dans cette prédiction? Aucun. Mettez de l'ordre dans votre maison, car vous mourrez, vous ne vous rétablirez pas. Des questions à ce sujet? C'est assez clair. Mais cela ne s'est pas produit. Les promesses de Dieu ne sont-elles pas fiables? Oui, ils le sont, d'accord. Très bien, donc il y a une réserve implicite là-dedans, hein? Il ne le dit pas, mais c'est sous-entendu. D'accord, d'accord, de la même manière, Jonas est allé et a dit Ninive, 40 jours et tu vas être incendié et je suis content. D'accord, Dieu ne s'intéresse pas à sa mort, mais il souhaite attirer son attention, alors il le servira. D'accord, d'accord, maintenant je suis avec toi, mais seulement dans cette mesure. Ézéchias se repent-il de quelque chose? Eh bien, n'est-ce pas? Je ne pense pas ouais, il ne dit pas que je vais marcher avec toi, il dit que je l'ai fait. Et je pense que Dieu répond à la fidélité et ne veut pas vraiment condamner. Je pense que quelqu'un qui a vécu et désire vivre plus loin et qui, dans son propre cœur, croit qu'il peut faire encore plus, et cet appel que Dieu écoute. Ok. D'accord, oui. Il aurait dit par endroit qu'il était la cause de l'invasion babylonienne. D'accord, alors certains commentateurs disent aussi que c'est lui qui a martyrisé Isaïe. Ouais, c'est traditionnel. Eh bien, peut-être que Dieu avait une meilleure idée. Ouais, peut-être que ça aurait été mieux pour la Judée si Ézéchia était mort. Je ne veux pas qu'Ézéchia meure. Oh, oui, et je pense que c'est exactement ce que je veux dire, que ce que nous voyons ici est cette interaction continue entre la souveraineté de Dieu et notre réponse à cette souveraineté. Oh ouais, c'est très délicat. Ok, ouais, continuons maintenant. Qu'est-ce que c'est? À quoi le Seigneur répond-il? Je ne quitte pas ce point. Je veux juste nous amener encore plus loin. À quoi le Seigneur répond-il? Très bien, il répond à une prière obéissance, fidélité obéissance. Nous avons donc dit plus tôt qu'il répondait à la repentance, et cela ne fait aucun doute. C'est ce que dit Jonas, et c'est ce que dit le passage de Jérémie. Incontestablement, Dieu changera une annonce de destruction en vue d'une véritable repentance. Ce qui se passe ici rend les choses un peu plus compliquées. Parce qu'Ézéchia ne se repent pas, je veux dire, cela ne fait aucun doute. Il n'y a aucun doute que j'ai fait du mal, et je vais arrêter que ce n'est pas du tout le cas. Ézéchia fait plutôt une affirmation sur la base de son propre comportement antérieur et Dieu répond à cela. Maintenant encore, ce que je veux vous dire et ce à quoi je veux que nous réfléchissions, c'est que parfois nous considérons les promesses de Dieu comme une sorte de chose à suivre et je pense que ce que l'Ancien Testament et la Bible nous disent est que cette marche avec Dieu est une relation et que les relations ne sont jamais pures. Ils sont toujours en désordre. Je ne veux pas dire impur. Je veux dire en désordre. Ils ne sont jamais soignés. C'est toujours compliqué et encore une fois, Dieu est en relation avec nous et Dieu est prêt à ajuster la volonté de Dieu de donner en réponse à tout ce que nous sommes et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas si soigné et bien, Dieu l'a dit et je le crois et cela le vend, ce n'est pas si soigné mais cela dit que Dieu est impliqué avec nous, il se soucie de ce que nous pensons, il va ajuster ses actions à nous de diverses manières et il est ce genre d'être, il n'est pas une force avec un masque, donc c'est une des choses que je pense qu'il est important que nous reconnaissions ici maintenant. Cela signifie que c'était très difficile d'être un prophète. Vous savez, Isaïe n'est même pas sorti. Le porche avant que Dieu ne dise d'y retourner et de lui dire qu'il a 15 ans. Dieu, je vais ressembler à un idiot. C'est bon. Pour qui travailles-tu? Pour qui travaillez-vous? Donc, ce n'est pas chouette mais néanmoins, c'est riche et épanouissant. Ok maintenant, nous avons listé certaines choses ici, je vous ai demandé quels sont les éléments dedans. La vie d'Ézéchia à laquelle Dieu a répondu favorablement. Que sont-ils là? Travaillons juste par là. Quel est le numéro 1? Non, ce n'est pas le numéro 1 que j'ai marché avant toi. Mais même alors il décrit cette marche j'ai marché devant toi j'ai entendu quelqu'un dire en vérité ou en fidélité d'accord, tout un cœur avec tout un cœur alors j'ai marché et qualifié par ces deux-là et puis il dit que j'ai fait du bien j'ai fait bien. Oui à vos yeux pas à mes yeux, je pense que c'est assez important finalement. Ce n'est pas ce que je pense de ce que j'ai fait qui compte. C'est ce que Dieu pense de ce que j'ai fait. Très bien, revenons en arrière et regardons Genèse 17. La Bible est si fascinante dans la façon dont tout est lié. Certains d'entre vous étaient ici pour l'étude d'Abraham et vous vous souvenez peut-être que le chapitre 16 est la tragédie d'Ismaël. Voici arrivé 17. 13 ans se sont écoulés, 13 des années pendant lesquelles la Bible ne dit pas un mot sur 13 années de silence de la part de Dieu. Je ne sais pas, mais quand Abraham avait 99 ans, le Seigneur est apparu à Abraham et lui a dit, « Je suis Dieu Tout-Puissant. » Maintenant, que se passe-t-il ensuite? Marchez devant moi et soyez irréprochables. Je me demande si le roi connaît sa genèse, il était censé le faire. Les rois étaient censés avoir eux-mêmes copié une copie de la Torah et l'avoir conservée. Maintenant, il semble que presque aucun d'entre eux ne l'a fait. Qu'est-ce que cela signifie? Pas de marche devant Dieu. D'accord, vous devancez moi. Ce sont des descriptions de ceci, mais qu'est-ce que c'est? D'accord. Pourquoi dit-il marcher avant Dieu, pourquoi ne pas marcher avec Dieu? D'accord, une démonstration de fidélité. D'accord, d'accord. Ce n'était pas une ligne droite. Ouais, ouais, ouais. Oui. Oui. Oui, oui, et je soupçonne qu'il y a ici des images du berger selon lesquelles la brebis marche devant le berger. Vous avez une déclaration intéressante, je vais vous guider avec mes yeux. La brebis regarde-t-elle constamment par-dessus son épaule ou regarde le berger? Maintenant, pourquoi décrire la relation comme une promenade cependant? Je veux dire que j'ai vécu avant toi. Très bien. C'est un voyage, une des choses que je pense que nous, en tant que chrétiens évangéliques, devons constamment combattre est l'idée que le salut est une position. Je suis dans une position sauvée et je vais pourrir ici jusqu'à ce que le bus arrive. Pour m'avoir. Je ne pense pas que la Bible soutiendrait cette idée une ou deux fois, mais la plupart du temps, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, la vie avec Dieu est décrite comme une promenade. Cela signifie que vous allez d'un endroit à un autre. C'est un marathon. C'est exact. C'est pour le long terme, c'est encore une fois, vous pouvez extraire beaucoup de descriptions ici et nous n'avons pas le temps de le faire, mais c'est le cas. J'ai fait une étude il y a plusieurs années, et c'est incroyable toutes les occurrences de verbes signifiant marcher dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Les trois quarts d'entre eux sont métaphoriques, seulement un quart d'entre eux décrivent réellement quelqu'un marchant sur la route. Les trois quarts des références concernent votre vie. Avec Dieu donc, il dit que j'ai été dans cette situation avec toi Dieu pendant tout ce temps et j'ai été ta brebis marchant devant toi dans le chemin que tu diriges et encore ta verge et ton bâton il me réconforte. L'une des façons dont un berger dirige les brebis est avec son bâton, reste en dehors d'eux. Le fossé là-bas. C'est donc l'un de ces éléments clés. J'ai eu cette relation à long terme avec toi. J'ai marché avec toi, d'accord. Maintenant, nous arrivons à ce dont vous vouliez parler au début. Nous décrivons cette promenade. Quel genre de promenade? Nous en avons déjà parlé un peu auparavant, mais parlons-en un peu plus. Quelle est la relation entre ces deux-là? Quel est le rapport entre la vérité et la fidélité? Très bien, si vous mentez, vous êtes infidèle. Bien bien. Quoi d'autre? Ok ok. D'accord, dans la Bible, la vérité est quelque chose que vous faites régulièrement. Ce n'est pas d'abord quelque chose que vous dites. C'est quelque chose que vous faites. C'est être fidèle à quelqu'un, lui être fidèle, être absolument fiable. Le mot hébreu qui court et c'est le même mot hébreu à ce sens fondamental de fiable, fiable, donc Dieu en ma démarche tu as pu compter sur moi, j'ai été fidèle à toi et je pense que l'implication est très claire, d'autres personnes ont pu compter sur moi et c'est la chose qui traverse l'Ancien Testament et que nous nous sommes rencontrés un Dieu qui est vrai. Maintenant, les dieux, par définition, sont faux parce que les dieux sont simplement des êtres humains écrits en grand et que les êtres humains ne sont pas très fiables. Les êtres humains sont tragiquement engagés dans des mensonges dans leurs relations. Mais ce que disent les Hébreux, c'est, pouvez-vous le croire? Pouvez-vous croire que nous avons rencontré un Dieu? Qui tient parole? Nous avons rencontré un Dieu qui fait ce qu'il dit et fait ce qu'il dit qu'il fera. Cela signifie que les Hébreux n'ont pas créé ce Dieu. Si vous créez un Dieu, alors il deviendra un humain juste plus grand. Mais si vous avez un Dieu qui n'est pas ce que nous, les humains, sommes. Ils n'ont pas créé ce Dieu. Il s'est laissé tomber sur eux, alors je vous imite dans ma marche. Je suis convaincu que c'est pour cela que l'adultère est un péché sexuel. Maintenant, si je devais le faire choisir un péché sexuel pour représenter tout le reste, je pense que je choisirais un des plus méchants, mais Dieu dit que l'adultère est celui qui représente tout le reste. Pourquoi? Parce que cela brise la foi, c'est faux et dans ce sens, c'est une terrible offense au Dieu qui est vrai. J'ai marché devant toi dans la fidélité, j'ai marché devant toi de tout mon cœur. Maintenant, je t'ai donné là quelques références. Nous ne prendrons pas le temps d'aller les chercher, mais le premier dans une chronique 28, 9 et David priant pour Salomon afin qu'il ait un cœur entier en 29. 19 Salomon demande un cœur entier dans un roi 8, 57 et 6 à 61 Salomon prie pour que le peuple soit capable de servir Dieu de tout son cœur et puis voici peut-être le verset le plus triste de toute l'écriture, 1er roi 11 car Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères et quand il était vieux, ces femmes tournèrent son cœur loin de Dieu et son cœur n'était plus entier 1514 et Asa qui a servi Dieu avec un cœur parfait même si sa performance laissait quelque chose à désirer mais son cœur était entier dans 2e chronique 19 9 Josaphat envoie des enseignants pour enseigner la Torah à travers le pays et il dit de faire cela de tout cœur. Maintenant, de quoi parlons-nous ici? Le King James n'a eu aucun problème. Le King James dit un cœur parfait. Mais bien sûr, nous le savons aujourd'hui. Personne n'est parfait. Donc les traductions modernes et contemporaines sont partout avec ce mot fidèle loyal dévoué de tout cœur et USB à tout cœur mais le fait est que c'est un verbe hébreu fascinant, sa racine est la même que shalom avec qui j'ai parlé vous en parler avant de vous en reparler shalom la traduction paix est très faible parce qu'en anglais la paix signifie seulement l'absence de conflit shalom doit être mis ensemble pour être uni et donc si vous avez le shalom du Christ a mis votre des morceaux brisés. Ensemble et vous a guéri c'est un verbe leurs cœurs sont shalamés si vous avez une dette qui n'est pas payée comment la shalamez-vous? Vous le payez quelque chose pend quelque chose est déséquilibré, mais lorsque vous payez la chose, vous l'avez mise en équilibre. Alors, qu'en est-il d'un cœur qui est chalamé? Il est indivis. Et c'est pourquoi le roi Jacques pourrait dire parfait. Tout est pour Dieu non sinon et non mais un cœur qui ressemble à celui de Salomon dans sa vieillesse est en partie pour Yahweh et en partie pour les dieux, il est divisé. Ainsi, ce que la Bible nous dit, c'est que vous pouvez être entièrement à Dieu vous pouvez appartenir à lui complètement sans arriver sans limite. C'est ça la perfection chrétienne. En bref, n'importe qui peut avoir un cœur entier et la réponse est oui. Cela signifie-t-il que vous performez parfaitement? Non, cela veut-il dire que vous comprenez parfaitement? Non, mais cela signifie que votre cœur appartient entièrement à Dieu, et rappelez-vous encore que certains d'entre vous restent avec moi assez longtemps. Vous allez comprendre ces points, le cœur c'est un peu trompeur ici parce que nous regardons cela et pensons à la Saint-Valentin, le cœur est au cœur de la personnalité humaine, c'est là que vous pensez, c'est là que vous ressentez, c'est là que vous décidez, nous entendons tout notre cœur et nous pensons au. Vous vous sentez vraiment complètement flou envers Dieu non, le noyau central de votre personne est tout Dieu, c'est ce qu'il dit et c'est excitant parce que c'est clairement possible. Dieu ne dit pas qu'Ézéchia est un menteur. C'est mon téléphone? Je ne pense pas non alors je veux juste dire que nous, les Wesleyens, nous devons arrêter de nous excuser c'est dans la Bible que le noyau de votre personnalité peut appartenir complètement à Dieu de manière indivise je l'ai répété, cela signifie-t-il que nous fonctionnons parfaitement? Non, cela veut-il dire que nous comprenons parfaitement? Non, ça parle à nouveau d'appartenance maintenant, je pense que parfois nous y parvenons, nous le faisons aussi super spirituel, et, je peux me tenir devant vous ce soir et témoigner sans aucune question. Mon cœur appartient entièrement à Karen Kennedy Oswald. Je suis à elle. C'est vrai, ouais, mais je veux dire. Est-ce que ça veut dire que je suis un mari parfait? Eh bien, elle n'est pas là alors oui, c'est le cas. Elle verra la cassette et je paierai pour ça. Non, je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas mais vous savez, ce n'est pas grave, je suis à elle et le reste d'entre vous, mesdames, pouvez être soulagés. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas voir cela à propos de Dieu? Je lui appartiens aucune limite, aucun rival n'entre et j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Bon 40 minutes sur 3 couplets pas mal. D'accord, voilà, donc je pense que c'est ça. Si Ézéchia peut dire cela, pourquoi toutes les personnes présentes dans cette salle ne peuvent-elles pas dire que je ne pense pas qu'il y ait de raison de ne pas le faire, sauf peut-être une limite de la foi? S'il peut le faire. Cela pour Ézéchia, il peut le faire pour vous et Dieu répondra et dira oui vous avez raison ok nous continuons donc sur le verset 6, je pense que cela soutient en quelque sorte l'idée que ces chapitres peuvent avoir eu lieu avant 36 et 37 s'ils sont après 36 et 37, il a déjà délivré la ville de l'Assyrien. D'accord, je parle en arrière-plan de ce drôle, pas d'un cadran solaire mais d'un soleil. Des marches d'escalier, c'est ce qu'il semble avoir été. D'accord, venons-en alors. Il a été guéri. On lui a donné 15 ans. Quel est le ton de ce poème dans les versets 10 à 20? Tous les quatre d'accord, ouais, c'est assez sombre ou diriez-vous que commence la deuxième partie eh bien, c'est encore assez sombre après 16 ans, n'est-ce pas? Il 19, je pense que là, nous le trouvons enfin. Merci, mais nous avons une 9 couplets. Ouais, je veux dire, ce type vient de recevoir 15 ans. On s'attendrait à ce qu'il le soit. Je pense que je m'attendrais à ce qu'il saute de haut en bas. Mais nous avons très peu. Merci, sauf le verset 19. Ouais, ouais, je t'en accorde 17. Ouais, ouais, je vois qu'il dit que Dieu avait l'intention de me prendre la vie. J'ai fait appel à sa miséricorde et il m'a guéri, loué le Seigneur. D'accord, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, le problème pour moi c'est que tu as 9 couplets de « il avait l'intention de me prendre la vie » et 2 couplets de « merci ouais ok, ok, ok ». Ce qui me frappe ici c'est que c'est avant tout une réflexion sur la mortalité. Je dois partir au milieu de mes jours. Je ne verrai pas le Seigneur. Je ne regarderai plus cet homme. Ma demeure est arrachée du jour à la nuit, tu m'achèves comme une hirondelle ou une grue. Je gémis comme une colombe. Mes yeux sont fatigués Seigneur. Je suis opprimé. Qu'est-ce que je vais dire? Il m'a lui-même parlé et il l'a fait maintenant. Je ne pense pas que ce soit de la guérison dont il parle, il dit que Dieu a dit que vous alliez mourir. Oh, qu'est-ce que je vais dire à ce sujet? Eh bien, je marcherai lentement toutes mes années à cause de l'amertume de mon âme. Wow, c'est un gars qui vient d'être délivré de la mort. Oh, redonne-moi la santé et fais-moi vivre, c'était pour mon bien-être que j'avais une grande amertume. Je pense que Bonnie est celle qui se rapproche le plus de l'idée que Dieu lui a dit cela pour attirer son attention, se concentrer sur ce qui comptait, en quelque sorte recentrer sa vie. Je pense que vous pourriez comprendre le verset 17 sur ce point, c'était pour mon bien-être et c'est peut-être le cas, mais ce qui me frappe ici, c'est que c'est le cas. Il s'agit plus du fait qu'Ézéchia est un mortel que de la délivrance. Ce qui est, à mon avis, significatif. Parce que la question est de savoir qui est-ce. Un enfant nous est né. Qui est cet enfant? Rappelez-vous que c'est de retour qu'il est le Messie, je veux dire qu'il a prouvé que Dieu est digne de confiance. Il lui a fait confiance contre toute attente et a sauvé la nation par sa confiance. D'accord? D'accord, le numéro 38 semble dire un homme bon, vraiment bon, mais à la fin, un homme mortel, il va mourir. On lui donnera peut-être 15 ans de plus, mais ce dont parle ce poème, c'est que le jour va venir. D'accord, laissez-moi. Avant de partir, j'ai posé la question, qu'est-ce que cela nous dit sur la façon dont nous devrions mener notre vie? Même si nous croyons au paradis, ce qu'Ézéchia, j'en suis sûr, ne savait pas vraiment. C'est ce que tu vois dans les psaumes. Dieu, tu ne peux pas me laisser mourir parce que personne ne te loue dans la tombe où elle le fera. Donc vous avez besoin de mes louanges. D'accord, mais si nous allons au-delà de cela et disons non, nous bénéficions d'une révélation plus approfondie. Nous savons qu'il existe un paradis béni. Qu'y a-t-il encore ici pour nous? Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien, oui, 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 c'est un monde réel et nous devons marcher avec lui maintenant, oui, oui. 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 L'une des grandes lignes de C.S. Lewis est que le paradis commence maintenant et l'enfer commence maintenant, oui, oui, alors oui, marcher dans cette vie de communion maintenant chaque jour dans le sens où c'est un monde réel, ce n'est pas un monde d'ombre dont nous attendons de sortir. Et aller ailleurs, d'accord, ça suffit donc. Chapitre 39. Pourquoi les Babyloniens sont-ils venus, que nous dit le verset 1? Ils apprirent qu'il avait été malade et qu'il s'était rétabli. Maintenant, c'est fascinant. Babylone est loin, juste de l'autre côté du désert. Il s'agit de près de 600 milles de route qui montent et descendent l'Euphrate. Cela fait près de 1000 kilomètres. Cela a donc dû être un gros problème. Très bien, cela pourrait l'être. Oui. Ouais, 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 attends une minute, j'ai entendu dire que ce judéen là-bas, tu sais, là-bas, sur la Méditerranée. Il était malade et il se remettait de la mort. Tout le monde le savait. Il allait mourir et il s'est rétabli. Pensez-vous qu'ils savent quelque chose que nous devrions savoir? Alors, c'est très clair, et comment Ézéchia réagit-il? Il a agi comme si tous les biens lui appartenaient au lieu d'appartenir à Dieu, agit comme s'il méritait de récupérer, ouais. J'ai le sentiment qu'il a été époustouflé. Waouh, Babel, nous avons finalement attiré l'attention des grands, car même si Babylone était sous la coupe de la Syrie, c'était un peu comme Washington DC à New York. Babylone a toujours su qu'ils étaient des gens très sophistiqués, cultivés, brillants, beaux et intelligents, et ces modes de terre en Assyrie. Ils nous tiennent peut-être sous leur coupe en ce moment, mais tout le monde sait que Babylone est là où elle se trouve. Je veux dire, petit dingue de Juda Wawa, voici notre chance, quelle ironie, tu vas montrer à Babylone ta richesse, tu vas montrer à Babylone tes armements, et j'ai juste une photo de ces gars babyloniens qui ricanent en quelque sorte. Tu te souviens de quoi lui dit l'Assyrien? Eh, tu sais, si tu avais 2000 gars à mettre sur des chevaux, on t'en donnerait 2000 et on te battrait quand même. Que arrive-t-il quand on essaie d'impressionner le monde? L'autoglorification, c'est vrai. Ouais. Oui, mais comment le monde réagit-il? Ils ne sont pas impressionnés. Ils ne sont pas impressionnés. Oh oui, si cela leur sert, oui. Oui, et c'est très souvent le monde qui va devenir plus fluide. Ils vont être plus avancés techniquement. Ils vont faire toutes ces sortes de choses et nous ressemblons à des modes de campagne essayant de les impressionner avec des trucs qu'ils ont déjà. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était Yahweh et Ézéchia gardaient la bouche fermée. Je me demande s'il était gêné, nous avons souvent raison. Oui, cela pourrait bien être bien. Eh bien, mais voici l'occasion de déclarer la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? Au chapitre 2, toutes les nations vont affluer vers Jérusalem pour apprendre la Torah de Dieu et elles diront marchons avec le Seigneur. Et il a tout gâché, oui, ouais, ouais. J'ai la grosse tête, un contraste avec Daniel. Oui. Oui. Oui, très certainement Isaïe a dit donc, que lui as-tu montré? Ils ont vu tout ce qu'il y a dans ma maison. Il n'y a rien dans mes entrepôts. Je ne lui ai pas montré. Je me demande s'il commence à se sentir un peu mal à l'aise ici et s'il essaie de s'en sortir. Je ne sais pas, Isaïe a bien dit, c'est une bonne chose car les Babyloniens vont tout posséder un jour. En regardant dans vos placards les jours viennent où tout ce qui est dans votre maison, ce que vos pères ont stocké jusqu'à ce jour, le sera. Être emporté à Babylone. Maintenant, c'est assez choquant, c'est la Syrie qui est le problème ici. Quelle que soit la date à laquelle vous prenez 710-1701, la Syrie est le problème. Alors, de quoi parle cette prophétie? Maintenant, vous savez ce que diront les critiques. Les critiques diront que quelqu'un écrivant 150 ans plus tard, sachant que c'était Babylone qui l'a pris, a écrit ça là-bas. Eh bien, si vous n'achetez pas ce que je n'achète pas, à quoi ça sert en parler ici? Oui, il y a aussi une autre raison et c'est parce que 40 à 66 sont adressés aux exilés à Babylone. Donc ici, en 39, c'est en quelque sorte une transition. Nous avons parlé de la Syrie, mais je dois vous dire que la Syrie n'est pas le gros problème ici. Dans 150 ans, le grand problème sera Babylone. Quand nous parlerons de cette histoire d'exil lorsque nous parlons du danger de faire confiance à la nation. Le danger ultime pour vous sera là dans le futur et vous devez le savoir. Et quand il viendra, sachez que Dieu le savait d'avance. Nous l'avons déjà dit. L'un des objectifs de la prophétie est que lorsque cela arrive, vous ne soyez pas aveuglés, vous êtes prêts et c'est ce qui se passe ici. Il ne restera rien, dit le Seigneur, et certains de vos propres fils qui viendront de vous et que vous deviendrez engendrés seront enlevés et ils seront tenus. Qu'est-ce que les eunuques ne peuvent pas avoir de descendance? Quelle lignée est Ézéchia dans la lignée de David? Il sera sur le trône pour toujours. Certains de vos fils seront tenus qu'à Babylone. Alors Ézéchia dit la parole à Isaïe du Seigneur dont tu as parlé est bon et bien, très gentil car il pensait il y aura la paix et la sécurité dans mes jours. Oups, c'est un bon mot parce que cela ne m'arrivera pas. Alors Ézéchia est-il cet homme bon? Cet homme qui a servi le Seigneur de tout son cœur est-il le Messie? Non, il est mortel et il est faillible. La confiance ne peut pas être une foi, cela doit être un mode de vie et c'est la question qui se pose. Nous savons maintenant que Dieu est digne de confiance. Non sinon et non mais. Il a été prouvé qu'Ézéchia l'a prouvé. Mais la question est de savoir ce qui nous motivera à mener une vie de confiance. Pas seulement une foi pendant la crise, mais à une vie de confiance. Et c'est vraiment là où nous allons dans la prochaine partie du livre. VE. La confiance a été démontrée. Dieu est digne de confiance sans aucun doute. Mais la question est, qu'est-ce qui nous motivera à une vie de confiance et puis au-delà qu'est-ce qui rendra cela possible? Vivre une telle vie et à mesure que nous arrivons entre 40 et 66 ans, nous allons voir ces questions se poser. Oui, exactement, exactement et c'est là encore le point et cet homme ne peut pas sauver la nation donc dans un sens réel 7 à 12 se termine par la promesse du Messie 36 à 39 se termine en disant qu'Ézéchia avait confiance. Mais il n'est pas le Messie, nous allons devoir avoir plus de révélations pour savoir qui est le Messie et c'est ce qui vient dans ces prochains chapitres. Ouais. Quelque chose s'est passé alors cela signifie probablement des bénédictions de Dieu. Nous devons vraiment faire attention à ce que nous faisons précisément. Et c'est encore une fois la vieille histoire de faire attention à ce pourquoi vous priez, vous pouvez l'obtenir au oui, au oui, au oui quand vous parlez des chutes pastorales, c'est presque ennuyeux que ce genre de choses se produisent souvent après un grand réveil après quelques grands succès, tu as baissé ta garde ouais, ouais. Je soupçonne que cela dépendrait en quelque sorte de la personne. Certaines personnes diraient, mange, bois et sois joyeux pour demain. Nous mourrons, d'autres personnes, je pense que ce serait le cas. Il deviendrait probablement fataliste et certaines personnes pourraient en profiter. Mais ouais, le vieux, tu as 2 ans à vivre, alors quelle est ta liste de choses à faire? Eh bien, je n'en suis pas trop sûr, mais ouais. Et moi toujours encore, toute la question de Manassé est intéressante. Il est dit qu'il avait 12 ans lorsqu'il a commencé à régner. Donc, s'il est né à cette époque, alors Ézéchia avait 3 ans avant la naissance de cet enfant. Dienga trop occupé pour passer du temps avec l'enfant ou est-ce que vous savez l'un des 20 enfants royaux? Toutes sortes de questions intéressantes là-bas. Ézéchia n'a-t-il pas eu de fils et est-ce pour cela qu'il était si terrifié à l'idée de mourir? Mais alors l'ironie bien sûr et qu'Isaïe dit eh bien, ouais, tu as un fils, mais vos descendants seront tous des eunuques au bien, ça change les choses mais voilà si nous cherchons un messie nous devons regarder au-delà des capacités humaines. Parfait ok. Nous prierons Père merci pour que nous puissions avoir tout un cœur pour toi non? Sinon et non mais tout à toi merci mais nous prions Seigneur pour que tu le fasses dans la mesure où c'est vrai pour chacun d'entre nous, tu le feras également donne-nous un aperçu et une compréhension pour permettre tout ce qui nous permet de comprendre tout ce que cela implique et tout ce que cela peut impliquer. Merci pour Ézéchia. Merci pour le degré de fidélité qu'il a manifesté aide-nous à être au moins aussi fidèles que lui jusqu'au bout en ton nom, nous te prions, Amen. C'est le docteur John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. Il s'agit de la session numéro 19 d'Isaïe, chapitres 38 et 39.